Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau magazine de la moto de 11h à 12h30 sur Campus Lille 106,6 ou www.campuslille.com. Au menu de cette émission, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Christophe Tillemon pour l'édito du Motomag de novembre. Christophe, bonjour.
Bonjour la biche, bonjour à tous.
Alors nous allons parler, donc c'est le Motomag qui parle, hein. on va retranscrire un peu ce qu'il y a écrit dans ce...
Voilà, on va faire une revue de presse des sujets. J'allais dire
dans le modèle. dans le modèle de novembre. Non, alors on va parler du tourisme moto et du profil motard.
Voilà, les randonnées Motomag, hein, donc qui sont maintenant une chose un peu institutionnalisée. J'en ai jamais parlé et j'ai trouvé justement sur l'angle de la façon dont c'est préparé, dont c'est traité, je pense que ça peut donner envie à certains prendre la moto et puis tailler la route.
Ensuite, des revues des modèles présentés.
Alors bah oui, comme chaque mois, il y en a pour tous les goûts, pour toutes les pratiques de moto, hein, du custom, du trail, etc. Donc on passera en revue les motos neuves. Il y avait le salon de Tokyo, donc ça sera l'occasion de faire un petit focus là-dessus. Et puis on parlera aussi des machines d'occasion, puisque c'est une habitude dans le Motomag, tous les mois une rubrique nostalgie, et puis la rubrique occasion. Donc je vous laisserai découvrir ça tout à l'heure.
Très bien, nous sommes avec Pascal à l'audio, quoi, avec DTMX, c'est ça, on parle
de DTMX. Voilà,
et
justement.
Puis, et Honda aussi.
On présente un journal, mais on essaie de le faire vivre aussi par les témoignages. Et donc, on a trouvé deux propriétaires qui vont nous parler de leur machine, qui ont la machine de leur début ou la machine de leur pratique aujourd'hui.
Voilà, très bien. Nous avons rendez-vous aussi avec Jean-Yves Ballois de la Fédération française des motards en colère.
Très en colère.
Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Mais... un peu moins fort parce que là, tu m'as pété les oreilles. Tu m'as pété les tympans. Donc, on va parler du fameux contrôle technique qui réapparaît et aussi des inquiétudes des concessionnaires avec le rétrofit des 100 chevaux. Là. C'est le bordel complet, ça.
C'est le bordel complet. Et puis, en plus, c'est une escroquerie à l'échelle nationale.
Parce que on va revenir pendant l'émission,
c'est incroyable.
On va parler aussi d'un sondage.
Oui.
Un odieux sondage. Alors là, c'est incroyable.
Pas odieux,
la manipulation. Alors là,
c'est merdeux. On peut dire merdeux.
Voilà, très bien. En troisième demi-heure, alors attention, là on colle à l'actu. Hein. En troisième demi-heure, nous avons rendez-vous au téléphone avec Nicolas Langlas, en direct de Valence, en Espagne, pour la toute dernière épreuve du championnat du monde de vitesse. Nicolas nous donnera une carte postale sonore de l'atmosphère qui règne sur le circuit Ricardo Tormo juste avant la toute dernière course de MotoGP de l'année 2015. Pascal, juste après l'émission, on part devant la télé, hein, pour voir un peu ce qui va se passer. Hein.
Tout à fait.
Voilà. Et au téléphone toujours, nous allons avoir aussi Guy Pilarczyk en direct de la 32e bourse d'échange organisée par le motoclub Outland avec comme thème cette année la marque Saro Léa. Voilà. Et pour terminer, Daniel Torel, vice-président de la Fédération des backers de France. Daniel sera avec nous et nous présentera les festivités de novembre et décembre de la FBF. Bonjour Christine, quelques petites infos pour commencer, non ?
Oui, si, on peut déjà parler du couscous.
Donc, le 21 novembre.
Le 21 novembre, une
préparation, là, attention, ça va chauffer.
Voilà, et donc ouais. Une soirée organisée par Kikin Kouté Toupal, et donc je vous invite tout de suite à vous inscrire à ce fameux couscous.
Voilà, et puis on présente notre technicien émérite. Bonjour Laurent.
Eh bien, bonjour à tous.
Been around now.
Voilà, c'est le magazine de la moto. Donc, c'est tous les dimanches sur Campus Lille, 106,6. Aujourd'hui, ben, on parle du Motomag de novembre, Christophe, avec un édito en grand, la moto en danger.
Voilà. Alors, on sait que l'État veut sauver les motards, mais à vouloir
mais
sauver.
Comment
En tuant la moto.
Oui, en arrêtant de faire de la moto.
Voilà,
c'est ça.
Exactement.
Ça s'appelle une dictature.
Bon, voilà, donc. Plus on écœure les gens de pratiquer finalement une passion,
c'est bien joué.
On aura effectivement moins de pratiquants.
Parce qu'il y a le port du gant, on va devoir porter les gants, ce sera obligatoire.
Alors, voilà.
Mais dans un an, il va falloir porter autre chose. On va nous dire qu'il faut porter autre chose. Et puis dans un an, on y dira encore autre chose. Alors tu sais, avant de partir, il va falloir t'équiper. Pendant 2 heures d'équipement, crois-moi que les gens en ont marre. Hein.
Ouais. Alors, il y a un truc qu'il faut penser, c'est qu'il faut porter la connerie du gouvernement.
Alors, bon, évidemment, c'est pas très radiophonique, mais moi j'aime bien toujours commenter les dessins de Nicolas parce qu'ils me font toujours bien rigoler. Et alors là on voit un bon gros de l'industrie du tabac qui dit porter des gants pour sauver des vies. Moi ça me va bien, fumer avec des gants. Bon. Alors, donc effectivement, Jean-Pierre Théodore, le rédacteur en chef, revient sur cette hérésie de réglementation là qui nous pend au nez. Il faut rappeler aussi que on en reparlera peut-être tout à l'heure avec Jean-Yves, mais sur le permis A, il plane quand même l'obligation de la puissance limitée à 48 chevaux pendant 2 ans, avec l'obligation d'une formation de 7 heures à la clé. Donc ça veut dire que les papis comme nous là, des cinquantenaires qui veulent reprendre la moto, ils vont devoir se coltiner 2 ans de pratique et puis ensuite une formation. Bon, enfin, tout ça, vous le découvrirez dans les pages.
Je pense que 2016, ça va être chaud. Hein.
Oui,
mais on aura, je crois, là.
Il va falloir se mobiliser parce que c'est très très mal parti.
Et on va faire un petit feuilleton, hein, Jean-Yves.
Bon,
on a préparé ça.
Allez,
hein,
alors, on commence de façon assez pessimiste. Hein. Alors, donc, moi, j'ai relevé quand même des petites informations.
Ah,
et pour
rire.
Ça, bon, j'ai parcouru le courrier des lecteurs et il y a quand même des raisons d'espérer. Alors, je vous raconte la mésaventure qui était arrivée à Patrick, qui, donc, en vacances avec sa FJR, on a déjà eu l'occasion de la présenter hein, avec un membre du Team Rabbit, la Patrice, donc avait eu un souci de régime moteur qui s'est emballé tout d'un coup. Donc une machine qui avait 8 ans, 26 000 km. Et donc il a obtenu par son concessionnaire la prise en charge complète de l'intervention, donc du remplacement du calculateur défaillant par Yamaha. Donc il faut quand même reconnaître, là, il y a une chaîne de professionnels et puis une responsabilité du fabricant qui assume et qui intervient. Et donc ça vaut le coup de le dire. Alors, dans un autre registre aussi, un pneu gonflant. Alors là, je me retourne vers Jean-Yves. Les histoires de machines qui vous vendent, donc les fabricants qui vous vendent des machines avec des pneus que vous êtes incapable de trouver en France. Et donc là, il s'agit d'une Kawasaki VN900 classique. Eh bien, Jean-François, il n'a pas de solution, puisqu'en fait, l'importation des pneus qui sont fabriqués pour le marché États-Unis et Canada ne sont pas possibles en France. Donc, il faut qu'il se débrouille. Et c'est vrai que là-dessus, il y a un vide. Alors, il y en a qui trouvent le système, ils roulent avec des pneus de voiture sur leur moto.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est tout simple.
Il y a que Jean-Yves qui peut faire ça.
Ouais, non, mais non.
Là, le gars, là, il, à mon avis, ne pourra pas.
Ça, bah, c'est une VN. C'est un gros truc quand même.
Alors, quelques pages ensuite pour revenir sur cette manifestation du 10 octobre. Hein, donc, 50 000 motards en colère partout en France. Une vidéo qui a fait le buzz, puisqu'en fait, c'était sur Facebook, le périphérique parisien qui a été vu au moment où l'impression du journal avait lieu plus d'un million de fois. Et donc, on revient sur la fréquentation dans chaque ville et vraiment un énorme succès. Donc, la moto, ce n'est pas une pollution, c'est une solution pour les villes. Donc ensuite, l'actu moto, c'est aussi la presse. Tu en parlais tout à l'heure concernant les abonnements, les éditions de la FFMC. On avait déjà eu l'occasion de parler du rachat, de la prise de publication donc de Moto Crampon. Et donc un nouveau titre qui s'appelle Maximoto Maxifoto. Donc un très bel ouvrage, c'est un trimestriel qui rentre dans le giron des éditions donc de la FFMC, qui édite bien sûr Moto Magazine, et donc vous découvrirez des machines d'exception avec évidemment une qualité de photo qui vous feront apprécier toutes ces machines. Alors, je peux encore rajouter pour relever sur la rubrique radar, parce que ça, tous les mois, Moto Magazine nous fait un peu l'actu sur le sujet. Alors, on y apprend qu'il pourrait être question d'une privatisation des contrôles de vitesse. Hein, donc, je ne sais pas si Jean-Yves t'a prévu d'en parler. On y apprend également que 500 radars, parce qu'on nous avait dit qu'on était arrivé au taquet, eh bien pas du tout. Sur les 3 ans qui viennent, 500 radars de plus devraient être...
C'est tellement rentable.
Et puis, s'ajouteront à ça 250 radars de chantier. Donc, bah, je sais plus ce qu'il va nous rester. Et on parle même de drones et de procès-verbal à la volée.
À la volée. Et en plus, c'est fait par des milices privées des autoroutes.
Oui, des milices privées même. Oui, non, mais bon... Moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il y a personne ne réagit. Voilà, on en rigole, hein, mais bon.
Alors, c'est bien triste.
Il faut quand même reconnaître, c'est dit dans les comptes rendus donc de la manifestation du 10 octobre, c'est que dans la manifestation, il y avait vraiment tous les types de pratiques, du cyclomoteur jusqu'au gros cube, en passant par les customs, les trials, etc., etc. Effectivement, on voit que quand il faut mobiliser au niveau de la pratique de la moto, eh bien, on n'a pas la même réaction au niveau des automobilistes. Il y a une fois, je crois, où motards et automobilistes étaient assez impliqués. Oui, mais ça a été vraiment...
La Ligue des conducteurs qui appelait tous les automobilistes à mettre un chiffon blanc à leur rétro.
Mon Dieu.
Et j'ai une bagnole aussi, et c'est la seule bagnole que j'ai vue avec un chiffon blanc, c'était la mienne.
Ah. Bon.
Oh, c'est percutant comme réaction.
Mais Jean-Yves ayant fait un appel sur les ondes, on peut penser que la prochaine fois, il y en aura un peu plus.
Voilà, et dans le magazine de la moto, on colle à l'actu, nous retrouvons Nicolas Langlais qui est en direct de Valence, du circuit Ricardo Tormo. Bonjour Nicolas.
Bonjour la Miche et bonjour à tous les auditeurs.
Crie pas trop fort, c'est pas la peine, on règle le son ici dans les studios, tu sais qu'on a un technicien émérite et ça y a pas de problème. Je voudrais que tu nous donnes un petit peu l'atmosphère hein, qui se passe, qui a le actuellement là-bas sur le circuit.
C'est génial, tout le monde cohabite, les pros aussi, les pros Marquez, il n'y a pas de
bagarre, tu sais, comme au foot, il n'y a pas de bagarre entre les Marquezeuguiens et les Rotisiens, non, il n'y a pas de...
Les Rosiens.
Le sport moto restera le sport moto, mais pas dans le football, l'ambiance est au top, beaucoup de pros aussi, avec déjà des t-shirts 10e titre, mais bon, c'est un rêve, quoi. Beaucoup de supporters de Valentino, beaucoup de supporters, un peu moins de Marquez, mais l'ambiance est géniale, il fait très chaud, et franchement, l'ambiance...
Bon, donne-nous la grille de départ, là, la première ligne.
Pour le MotoGP ?
Pour la MotoGP, oui.
Oui, alors si je dis pas de bêtises, c'est Lorenzo Marquez Pedrosa.
Alors Lorenzo, il a pété les scores, là. Hein.
Comment ?
Lorenzo a pété les scores.
Ouais, c'est ça. Donc Lorenzo Marquez Pedrosa aussi est tombé hier dans les dernières minutes.
Oui.
Et ensuite, j'ai pas de trop parce que ça parle espagnol.
Et tu parles pas espagnol, c'est con, c'est dommage. Voilà. Ouais. Bon, bah, de toute façon, c'est sûr que Rossi partira de la dernière ligne. Hein.
Ils auraient pu le faire à Valence en France. Hein.
Mais on y croit encore jusqu'à la dernière minute.
Vous y croyez encore ? Bon. Très bien.
Jusqu'à la dernière minute ici, tout est à l'effigie de Rossi. Il y a des panneaux 10e titre.
C'est comme un.
Le collant et des t-shirts pour le 10e titre. On les possède déjà d'ailleurs. Et puis c'est magique.
Pourtant, c'est incroyable.
Ce qui est bien, c'est que l'ambiance, il n'y a pas de rivalité entre les pro Marquez et les pro Rossi.
Bon.
J'avais un peu peur en arrivant à la frontière parce que on voyait un peu que c'était un peu tendu. Certains Espagnols qui disaient que Rossi, ce qu'il avait fait, c'était pas bien. Mais là, on peut dire que c'est génial.
Mais pourquoi t'avais peur ? T'avais mis ta casquette Rossi 46 ?
Ouais, j'avais peur d'afficher mes couleurs, mais je peux les afficher.
Ça y est, maintenant t'as affiché tes couleurs, donc t'es rassuré, quoi.
Voilà, je suis rassuré, on peut se promener en toute sécurité. Voilà. Je suis pas prêt d'aller voir un match de football, quoi. Donc voilà.
D'accord. Bon, de toute façon, quand même, ça sera pas facile hein, pour Valentino Rossi.
Non, ça va être très difficile, et on voit quand même que pour lui, c'était difficile hier, parce qu'en fait, on a regardé un peu la CVE et il disait qu'il faisait plus d'illusions.
Oui, donc en plus il a chuté, donc effectivement tu l'as dit tout à l'heure.
Il a chuté quelques minutes avant la fin des tours d'essai, quoi.
Parce que sur ce circuit, Ricardo Tormo, hein, on tourne à l'envers, hein, c'est l'inverse des circuits.
On tourne à l'envers des sens d'une aiguille d'une montre.
Voilà, c'est ce qui fait un peu la différence. Et en fait, Valentino Rossi n'a jamais trop aimé ce circuit. Hein. Souviens-toi, avec une finale avec Nika Hayden.
On va dire que c'est pas un circuit qui lui a porté chance. C'est vrai qu'en 2006, il était tombé au départ. Il y avait Nika Hayden qui avait été titré. C'est pas son circuit préféré, mais bon, comme j'ai dit et j'ai redit, on y croit jusqu'à la fin.
Bon, très bien. Donc, l'atmosphère, le principal, c'est que l'atmosphère là-bas sur le circuit, les supporters se supportent, hein, de chaque clan. Ceux qui sont pour Marquez ou ceux qui sont pour Rossi, hein, c'est le principal déjà.
C'est très bien pour le sport moto parce que j'ai l'impression que hors médias, ça se passe. C'est totalement différent.
Voilà, et tu confirmes que c'est plein, hein, c'est à bloc, il paraît, le circuit.
C'est plein à craquer, plein. On a mis 2 heures pour arriver au circuit, c'est plein, plein, plein. Il y a beaucoup plus de monde qu'hier.
C'est plein.
J'ai du mal à garer la moto, c'est plein.
Ce qui m'épate, Nicolas, c'est de remplir un circuit. Il faut vraiment être fort, hein, parce que y a toujours, c'est grand un circuit. Hein, y a toujours un peu de place sur la pelouse, quoi. Et là, on joue à guichet fermé.
Ouais, tout est plat, tout est complet. Je voudrais parler un peu du Moto 2 aussi.
Oui, parle du Moto 2.
Donc Tom Lehti en pole position.
Oui.
Et notre champion du monde, Johan Zarco, deuxième. Mais je pense qu'il va gagner aujourd'hui.
Mais de toute façon, il est champion du monde. Hein. On a un Français champion du monde en Moto 2 hein, cette
Exactement,
année. Hein. Ça fait déjà au moins 5 Grands Prix qu'il est champion du monde. Hein.
Exactement, il ne faut pas oublier qu'on a un champion du monde de moto français, un de plus.
Un de plus, eh bien oui, quand même, voilà. En France, hein, finalement. Bon. Voilà, merci Nicolas d'avoir appelé, on va te laisser parce que le départ va être donné de la Moto 2, là.
Oui, et puis moi je m'en vais regarder la première course, le Moto 3.
C'est Moto 3, oui, oui.
Je vous remercie tous, aux auditeurs, aux auditrices, et à toi, la Miche, personnellement, de m'avoir...
Ok, d'accord, merci Nico. Alors, bonne course, et surtout, bon retour, hein.
Ouais, il n'y a pas de souci.
Le retour, salut. Tu le fais comment, en avion, ou tu le fais en moto?
Ah, je suis en moto.
Ah, t'es en moto, en plus. Tu t'es tapé 1600 bornes.
Non, j'en ai fait 2000, j'ai fait un petit détour.
T'as fait 2000 bornes depuis mardi? Ouais,
j'ai fait un petit détour, je me suis promené un peu.
T'es un rouleur, toi, hein.
Bah ouais, quand même.
Toi, tu bouffes du kilomètre, hein, Nico. Bon,
comment?
Écoute, tu viendras dimanche prochain parce qu'on va refaire un spécial saison, donc Grand Prix, Championnat du Monde de vitesse, hein.
Ouais,
dimanche prochain, donc on t'attend dans les studios, hein.
Ouais, je pourrais parler d'Assen parce qu'Assen, j'y étais aussi.
D'accord, Assen. Ah oui, alors Assen. Alors c'est ça, Marquez a un peu une dent contre Rossi, hein, Assen. Mais en fait, c'est lui qui le gêne, hein.
Ouais, c'est ça. Assen. Marquez et Rossi, un peu avant la ligne d'arrivée, ils se sont accrochés.
Ouais.
Rossi a coupé dans les cailloux. À mon avis, ça a dû démarrer un peu de neuf.
Ouais. Très bien. Bon, Nicolas, on teste parce que tu sais, on a un fil conducteur très dense et si ça continue, on n'aura pas le temps de tout dire. Donc voilà, on te laisse. Bonne course et puis à dimanche prochain. Merci, bon retour.
Merci, bon dimanche à tous.
Au revoir.
Floating around.
Voilà, le magazine de la moto sur Campus 106,6 tous les dimanches de 11h. Voilà, aujourd'hui on va parler de ce fameux contrôle technique qui apparemment réapparaît. Il y a 2 ans, on pensait être un peu, comment dire, donnez-moi le mot, je sais pas.
Libéré
jusqu'en 2022. Je
délivré.
Libéré. Ouais, voilà, jusqu'en 2022. Ouf. Et là, non. On est en 2015. Ce fameux contrôle technique revient. À cause de quoi?
Ben, c'est des hommes politiques, c'est tout. C'est l'explication.
Moi, je pense que ça revient à cause de ce fameux sans chevaux.
Oui.
Ils en ont profité pour justement faire réapparaître ce fameux contrôle technique.
Un odieux marchandage.
L'abolition des sans chevaux en France. Mm-hmm. Oui, c'est ça.
Oui. C'est resté à travers de la gorge des hommes politiques et ils se sont dit.
Jean-Yves, je vais me permettre, nous avons Guy au téléphone, notre motard citoyen. Guy, bonjour.
Salut à tous et à toutes.
Voilà, donc on vient d'enchaîner sur le sujet. Donc on va parler de ce fameux contrôle technique et puis aussi de ce rétrofit des 100 chevaux. Alors c'est un bordel immonde.
Tout à fait, oui. Alors il faut savoir que, il faut rappeler que le comité interministériel présidé par Valls, le 2 octobre dernier, a présenté 22 mesures pour faire baisser, passer en dessous des 2000 tués en 2020. Et dans les mesures, dans ces 22 mesures, il y en a une qui nous touche particulièrement, c'est la 13, qui veut, dans les 2 ans à venir, faire en sorte d'instaurer un contrôle technique lors de la revente des motos. Et donc, on peut s'interroger, déjà, rien qu'à ce stade-là, c'est rien qu'à la revente. Donc, c'est loin de l'objectif de faire baisser le nombre de morts au quotidien sur les routes. Ça n'a rien à voir, même. C'est
complètement différent. Il y a Jean-Yves qui veut intervenir. Oui. Pour les voitures, c'était pareil. Oui, on a d'abord commencé avec le contrôle technique à la revente.
À la revente.
Et 2 ans après, c'était tous les 5 ans. Et 5 ans après, c'était tous les 2 ans.
Et puis maintenant, c'est toujours pareil. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme et du système par l'homme politique. C'est un problème qui... on n'est pas toujours conscient de ce qui va nous tomber dessus. Mais ce qui est certain, c'est que ce qu'ils annoncent là, ce n'est qu'une introduction pour une répression encore plus sauvage. Il ne faut pas se faire d'illusions. On a des hommes politiques qui sont... notoirement motophobe, il faut le savoir, et donc il faut lutter contre eux. Alors un moyen de lutter, à mon avis, il y a des élections là en décembre, on est en colère mais aussi citoyen, et donc je propose que tout le monde, quelles que soient vos opinions politiques, vous votiez contre le gars en place. Comme ça, ça, automatiquement, ça fait qu'un seul mandat, beaucoup plus démocratique.
Qu'est-ce que tu en penses, Guy? Citoyen et motard, on peut être effectivement quand on est motard, on est aussi citoyen du pays, on vote, on paye ses impôts, donc tu as un avis à donner.
Je suis tout à fait d'accord sur le constat. Sur la méthode, malheureusement, j'ai pas la solution parce que de toute manière, on les retrouve le mandat suivant. Enfin, c'est l'alternance en permanence. Je n'ai pas le moyen, comment dire, de proposition pour aller les faire valser, entre guillemets, avec sans jeu de mots, mais avec le jeu de mots quand même. Parce que ils nous bouffent tous les jours, en fait. Et quel que soit le parti qu'on a connu ces 20 ou 30 dernières années, c'est toujours la même chose. Alors effectivement, Jean-Yves le rappelait, ça s'est passé exactement comme ça pour la bagnole. J'avais fait un petit film qui est sur le net, et je rappelais les documents qui étaient affichés, les comptes rendus de débats à l'Assemblée. Donc c'est exactement ça, et Jean-Yves a tout à fait raison en disant que ce qui nous prépare derrière, c'est que le lobby des contrôleurs, là, des CRA et autres, vont faire en sorte de faire le maximum pour augmenter la fréquence des passages. Alors maintenant, effectivement, il faut rappeler qu'il y a le vote, et c'est un moyen d'expression. Malheureusement, on sait que derrière, il n'y a pas beaucoup de possibilités de faire changer. Il faudrait, je pense, aller au-delà de ça pour faire, pour renverser la table, quoi.
Bon, on peut pas les guillotiner. Il y en a marre. On a bien envie, mais on peut pas.
Oui, non, le problème. Vous avez vu? Le problème, c'est trouver le moyen de renverser la table.
Je vais me mettre dans le débat. Il y a Ségolène. C'est page 10 du Motomag, Christophe. Ségolène Royal qui était, je sais plus, là, en exhibition, on va dire.
Donc, c'est le mot.
Il se marquait les motards manifestent un peu partout, mais nous, c'est pas contre la moto, hein, c'est pour améliorer les moteurs, que ça pollue moins. Oui, mon œil, tiens.
Qu'est-ce qu'il y connaît en moteur?
Elle précise que ça pollue pas tant que ça. Hein,
et elle précise que finalement, c'est vrai, les motos. Alors donc, on a quand même le ministre de l'écologie qui dit que finalement, les motos, c'est page 10, hein, vous pouvez les lire, c'est en haut de page. Hein. Et donc, elle dit tout simplement, non, c'est vrai, la moto, par rapport à la voiture, ne pollue pas plus que moins que la voiture. Donc, elle avoue. Hein.
Et puis, je voudrais rappeler aussi un point, c'est qui devrait être semé à la consternation nationale, c'est le rétrofit. C'est-à-dire que votre bécane...
Alors ça, c'est autre chose. Là, on sort du contrôle technique.
On sort du contrôle technique, la première chose qu'ils vont vérifier au contrôle technique, c'est si votre bécane n'est pas gonflée.
Les pneus.
Non, le moteur.
C'est là le problème.
Alors, Guy, est-ce que tu peux clairement et très vite nous expliquer ce que c'est que ce problème des 100 chevaux et de ce rétrofit?
Voilà, clairement. Alors, le problème des 100 chevaux, c'est que la France était hors la loi vis-à-vis du règlement européen, puisqu'il y avait un bridage à 100 chevaux et ce bridage n'était exercé que pour les motos circulant en France. Et on était hors la loi. Donc là, il y avait un moyen simple, depuis au moins 97, la fin de l'expérimentation. Le but, c'était à l'origine de limiter à 100 chevaux et d'examiner s'il y avait un impact sur le nombre d'accidents. Cette étude n'a jamais été faite et il n'a jamais été montré que le nombre d'accidents était lié à la puissance.
Et d'autre part, la FEMA a largement démontré qu'il n'y avait strictement aucun rapport entre accidentologie et puissance des bécanes.
Voilà. Donc là, la France avait l'opportunité de revenir dans le rang, mais non, elle s'en est pas contentée. Elle a introduit le fait que le rétrofit ne pourra avoir lieu que si la moto est avec ABS. Alors, bon, on va voir comment
ça va pas être facile. Hein.
Non, la décision n'est pas encore totalement définitive. Et donc, ce qui est intéressant d'entendre, c'est et notamment ce monsieur Éric Dessaine, qui est le patron des constructeurs automobiles et motos, et qui est en même temps représentant de Yamaha France. Dans son interview, visible sur Motomag, dit « ben, je suis pas contre ce que l'État propose, avec le contrôle technique, donc, et nous ne sommes pas favorables à un contrôle technique, mais à ce que nous appelons à un contrôle de conformité, c'est-à-dire une visite régulière du deux-roues dans l'atelier d'une concession. » Et moi, je fais le lien avec le contrôle technique, parce que qu'est-ce que c'est d'autre qu'un contrôle technique au sens où l'État veut nous le faire avaler? Oui. Puisque le contrôle technique, déjà pour les bagnoles, les gars ne peuvent que voir, ils ne peuvent pas démonter. Et donc le contrôle technique, là, qui est proposé pour les motos, pour la revente, et comme on l'a dit tout à l'heure, ça bougera après, c'est un contrôle visuel également. Et là, on sent bien que les constructeurs et les concessionnaires veulent reprendre une part du gâteau.
Exactement.
Et ça n'est que ça qui est derrière.
C'est ça qui est diabolique, d'ailleurs, parce que ça met les concessionnaires et les ateliers mécanos du côté du gouvernement contre les motards.
Exactement. Et donc, ils voient une partie du marché partir avec ce rétrofit, parce que le marché de l'occasion va sombrer, puisqu'il y a beaucoup de bécanes qui n'ont pas l'ABS, les anciennes. Et donc, ils voient une part du marché baisser, et donc ils sont attirés par ce contrôle qui disent non pas contrôle technique, mais contrôle de conformité. Pour moi, c'est exactement la même chose. Et donc, chacun veut sa part du gâteau. Donc, c'est complètement, complètement pipoté. Et quand on ajoute à ça la publication dans Le Parisien du fameux sondage.
Alors, ça c'est autre chose. Alors, on a parlé du contrôle technique, on a parlé des 100 chevaux. Et donc, il y a un sondage qui est paru dans Le Parisien. Moi, j'ai l'audio sondage. C'est incroyable. Hein.
Voilà. Ouais.
Alors, vas-y.
C'est Le Parisien qui a publié ce sondage quand on lit, donc, ce sondage dit en gros, le contrôle technique de roue est publicité par 81% des sondés.
Non, c'est la question. Non, mais c'est con comme la lune. La question, êtes-vous d'accord pour contre les mesures du gouvernement pour le contrôle technique? Il paraît que donc 80% des gens auraient pourquoi
pas. 80% des gens sont automobilistes.
Alors voilà quoi. Bon voilà. Et donc c'est bien ça, Guy.
Mais oui. Et donc ça a été fait par qui?
Alors attention, il faut lire tout en bas de l'article du machin et deviner qui a demandé à faire ce sondage et qui l'a payé d'ailleurs.
C'est Décra.
Et Décra, c'est quoi? Société de contrôle.
C'est contrôle technique.
Et voilà, elle ne fait pas que les bagnoles. Hein. Elle fait aussi du contrôle d'entreprise et tout ça.
Hein. Oui, oui.
Et
ouais.
L'article se poursuivait par une interview de qui? De Geoffrey Michalak, directeur technique et qualité pour Décra.
Ah oui.
On a tout compris.
Oui, oui.
Eh bien, c'est bien du lobbying et c'est exactement la même chose qui a été faite lors du précédent combat qu'on a mené et pour lequel, vous le rappeliez tout à l'heure, on avait eu un certain espoir auprès de l'Europe parce que c'était Décra qui avait envoyé ces documents à la Commission européenne et qui pensait faire infléchir comme ça la décision. Et donc on voit bien que c'est une affaire que de lobby qui fonctionne, que ce soit niveau européen ou au niveau français.
Alors Guy, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire peur à cette société?
Justement.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire?
La boycotter.
Ah oui, mais Décra...
La boycotter, effectivement. Moi, j'ai si vous avez une voiture, boycotter Décra.
Non, alors on repère les centres de contrôle d'écran dans la région ici, et on donne un lit sur Internet, et puis surtout, si vous avez une voiture, vous n'allez pas là, voilà.
Tout à fait. Alors, il y a une pétition dans les moyens divers et variés. Il y a une pétition qui circule actuellement. Donc, c'est http://, tout collé en minuscule, stopcontrôletechnique2rm.fr. On en est à 26 000 signatures. C'est la FFMC, entre autres, qui participe à cette pétition. Donc, vous pouvez y aller, déjà. Effectivement, le boycott de Décra, parce que on voit bien comment ils agissent et c'est quasiment au grand jour. Ils n'ont peur de rien.
Ah ben là, mais non, ils ont plus peur de rien, apparemment. Ils y vont. Hein.
Oui, mais enfin, hormis Décra, il y a aussi les concessionnaires, enfin les marques. Il y a Yamaha, il y a Honda qui est dans le coup, il y a l'importateur de tous les scooters en France. Faut quand même pas oublier ces gens-là.
Enfin, c'est la bouche.
Voilà.
Et donc, les autres acteurs qui font du lobbying parce qu'ils veulent récupérer une part du marché, ce sont ceux que tu viens de dire.
Voilà. Le marché est estimé quand même, enfin en 2011, il est estimé hors achat matériel et hors équipement moto à 356 millions d'euros et ça impactait à peu près 60 000 salariés.
Voilà, ça c'était les mots de Daniel Torel qui est vice-président de la FBF. C'est pas rien, hein. Quand on est vice-président, on en sait des choses.
je vous rappelle aussi quand même un mot qui a été repris, c'est ce qu'on appelle « on nous prend pour des cons, votons cons ». Et on a fait tout un argumentaire quand même pour sensibiliser l'ensemble des utilisateurs de roues.
Alors, pour terminer de manière aussi un peu ironique, je ne savais pas qu'on était revenu à une situation où c'est l'État qui impose les prix. Je développe rapidement. Si vous allez sur Motomag toujours, vous verrez qu'il y a une interview de Barbe, le fameux Emmanuel Barbe. Et donc, c'est lui qui fixe le prix. C'est 50 à 70 euros le contrôle technique qu'il veut instaurer.
Ah ouais.
Je ne savais pas que le contrôle des prix était revenu.
La vache.
Si vous avez suivi...
On est dans une société libérale, voyons. C'est bien connu.
Ouais. Et donc, forcément... que Décra va pas se laisser imposer un prix, forcément.
Et alors attention, Guy, parce que j'ai vu un peu ce que ce serait le contrôle technique, ce serait le gars tournerait autour de la moto, visuellement, il regarde, et hop, allez, 70 euros, on n'a pas besoin d'avoir avoir un mec pour nous dire, t'as vu, il y a un truc là, nous, les motards, on le sait, on va faire
exactement.
Attention.
Parce que c'est notre vie, quoi. Enfin,
c'est, voilà.
Hein. Y a une fuite sur les freins ou sur la
fuite. On répare.
Voilà. Bon, j'ai pris un peu de temps, désolé.
Oui, c'est vrai. Alors, Guy, là, t'as pété tous les scores. Hein, 14 minutes de... Écoute, là, t'exagères.
Je regrette de ne pas être auprès de vous.
Il va faire sauter le bouchon, là.
Oui, et heureusement que c'est pas lui qui fait le contrôle technique. C'est
bon, voilà, Guy. Alors, c'est terminé, Jean-Yves, tout ça.
Oui, c'est terminé.
Donc, c'est à suivre. Hein.
C'est à suivre. Préparez-vous à lutter.
Ça, c'est aussi l'actu, le contrôle technique.
Si, un petit... Là, il y a le Supercross... la semaine prochaine. Et donc, il y a Benoît Delmotte, le coordinateur FFMC de la région, qui cherche un peu d'aide. Parce que, justement, c'est le moyen, en distribuant des tracts, de toucher les gens et de leur expliquer ce qui se passe exactement.
Voilà.
Donc, il y a Benoît. Vous pouvez le joindre le 06 13 70 46 18. Et il cherche de l'aide pour imprimer des tracts et
les
distribuer
de faire des photocopes,
devant le grand stade.
Voilà. Vous l'appelez comme ça, parce qu'il y en faut un max, parce qu'il va y avoir 30 ou je sais plus 35 000 spectateurs, donc il faut imprimer au moins la moitié, 15 000. Voilà.
Merci à vous.
Bon, merci Guy, on se retrouve le mois prochain.
Merci à vous, bien volontiers.
Bon dimanche, tu sais qu'il y a le Grand Prix de Valence aujourd'hui, non ?
Je suis pas trop ça.
T'es pas passionné de moto. Bon.
On peut aimer la moto sans courir.
Non, je veux dire, t'es pas passionné de moto de vitesse, de course, de compétition. Voilà, t'es passionné de moto, mais pas de vitesse de compétition. Voilà.
Exactement ça.
Daniel qui dit, c'est plus de ton âge.
Oui.
On lui a fini une baffe de ta part.
On va lui casser la gueule de ta part. Comment c'est que t'es loin.
Allez, à plus.
Merci Guy.
Salut. Ciao. If I'm gonna go down, I'm gonna go down rocking. I ain't gonna slow down, I'm gonna go down rocking. No one gonna tell me what to say or tell me what to do. You can't tell me what to play.
On revient sur le Motomag du mois de novembre avec aussi une rubrique tourisme à moto et le profil motard.
Portrait de motard. Voilà.
Alors, fil conducteur qui est pas bien précis.
Effectivement, j'ai jamais eu l'occasion d'en parler. On parle souvent tourisme à moto. On a eu Luc Cotterel qui a fait un super article dans le dernier numéro là sur son voyage en Afrique. Et là, donc, on revient sur les randos Moto Magazine, puisque depuis quelques années, Moto Magazine organise donc des voyages. Et là, ils reviennent donc sur un voyage qui a eu lieu cette année dans les Balkans. donc qui a emmené 80 pratiquants. Et donc c'est, je trouvais intéressant de refaire un petit peu le focus. Alors d'abord les Balkans, des contrées qui ont nécessité des repérages. Ils ont fait 5500 km de repérage pour faire les 3000 km de la randonnée. Alors 80 personnes ont participé, 56 motos, 2 camions d'assistance. Mais évidemment tout ce petit monde ne roule pas ensemble, hein. Donc ce sont des groupes qui se constituent entre 6 et 15 voyageurs. Si vous voulez voyager en solo, vous pouvez, il n'y a pas de problème. On vous donne un tripi. Alors là, j'ai pensé à nos amis adeptes du tripi. Là, le tripi est utilisé à bon escient. Ça rigole dans le studio. Oui. On a l'impression que le tripi n'est pas partagé par tous.
Si, non. Mais...
Bon.
C'est des vieilles histoires, ça.
Voilà. Et donc, cette rando qui s'est acheminée donc, de façon tout à fait sympathique pour les participants, qui avaient la possibilité c'est également d'essayer deux machines. Yamaha avait mis à disposition une FJR 1300 et une Super Ténéré 1200. Et donc, chacun pouvait à discrétion disposer pendant le voyage. Sous simplement condition de faire un petit compte-rendu pour le blog Rando Motomag. Voilà, donc cette rando ayant eu un tel succès, elle a déjà été reconduite 2 fois. Donc la prochaine session d'ailleurs est complète. Elle aura lieu du 4 au 18 juin 2016. Et il reste encore de la place pour la session du 18 juin au 2 juillet. Voilà, donc si vous voulez découvrir les Balkans, alors il y a une superbe photo du col de Stelvio, des virages à gogo, des épingles à cheveux comme on en voit pas souvent, et donc c'est l'occasion de découvrir en toute sécurité des contrées, si vous voulez disposer effectivement d'une organisation. Maintenant, ça ne vous empêche pas d'y aller par vos propres moyens. Voilà. Alors, tu parlais de portraits. Effectivement, j'aime bien toujours rappeler que chaque mois, un portrait d'homme ou de femme, adepte de la moto et pas que. Et donc là, on nous présente Jackie Grollet. Alors, vous l'avez certainement croisé, puisqu'en fait, il se distingue par des étiquettes de son vin, parce que monsieur est viticulteur. Il commercialise un Morgon. Et l'étiquette de son Morgon, ce n'est autre qu'un détournement d'une grande marque anglaise connue.
Je crois que ça commence par
N.
Voilà. Il y a autant de O dans Morgon qu'il y en a dans la marque de moto. Alors, à vous de trouver. Alors, ce qui est intéressant, c'est de présenter le profil motard de ce Jackie. Et donc, effectivement, il a acquis pour ses 50 ans sur le salon Moto Légende une Norton John Player 74.
Oh là là. Et des sous, hein, ce mec-là. Attention, alors regarde, il y a une grande consommatrice de vin ici. Christine. Mais elle boit du vin, elle vogue du vin bio.
Voilà. Alors,
donc,
est-ce
qu'il en fait parce que...
Alors, bio, ça, il faudra lui demander parce que c'est pas effectivement précisé. Par contre, je vous propose effectivement, quand vous êtes dans la région, d'aller lui rendre visite. Donc, Morgon. Hein, c'est la région Bourgogne. Et donc.
Beaujolais.
Excusez-moi.
C'est le nom.
Attention. C'est du bord du Pinard, de toute façon.
Heureusement qu'on a un spécialiste.
Il n'est pas vice-président pour rien.
On rappelle. Je l'ai dit tout à l'heure. Respect. Deuxième fois. Respect.
Alors, vous avez déjà le vice-président. Alors, il ne faut pas savoir si le président, comment il doit être.
Alcoolisé.
Déjà, Daniel, il sait tout.
Voilà. Et donc, vous pourrez aller déguster un Beaujolais dans la cave de Jackie, mais vous pourrez surtout découvrir ces motos qui sont vraiment un petit musée à... Alors je vous fais le détail, hein. La Ducati Panta 750, une Benelli Tornado, une Maico 75 d'OTAN, une Planeta Jupiter 350, toujours une d'OTAN 71, un scooter Simpson capoté à 3 vitesses. Voilà, de quoi voir de la belle machine et puis surtout d'échanger avec lui. Alors, vous le verrez certainement sur les salons et puis autour d'un bon verre de vin. Voilà pour le portrait de Jackie. Alors, on envoie la musique.
Oh, celui-là, alors. We'll be right back.
to go because something's on my mind and it won't get better no matter how hard I try.
Ça commence mal. Donc c'est rubrique nostalgie, Christophe, toujours dans le mag de novembre.
Ah oui, il y a une erreur de casting là, hein. C'était pas vraiment la moto.
Oh, si, c'est une vieille ça. Hein.
C'est une vieille.
Oh, t'entends pas le bruit, toilette,
ouais.
Toi,
aujourd'hui,
il y a pas
je,
le retour, pas de
je suis vraiment dans c'est le gaz. Hein.
C'est incontrôlé.
Je mets le Bourgogne dans le Beaujolais et puis... Bon, alors effectivement, je disais donc en début d'émission, Moto Magazine a inauguré une rubrique nostalgie et donc tous les mois, il passe en revue par le menu détail donc un modèle de moto emblématique. Et donc ce mois-ci, c'est la Yamaha 125 DTMX. Et donc pour faire les choses un peu plus vivantes, bah, je cherche un petit peu autour de moi les gens qui ont connu ou qui connaissent la moto pour nous en parler. Donc aujourd'hui, on accueille Pascal. Bonjour Pascal.
Bonjour Christophe.
Tu es un habitué du studio. Hein, t'es déjà venu plusieurs fois, hein. pas pour la même chose.
Il y a une grosse association aussi. La moto,
une grosse association, okay. Comment vous y allez si.
Oui, bah, on peut le citer, un peu de pub. Le team Rabbit.
Ah oui, bah, c'est hein, alors, qui, oui, voilà Rabbit.
Et qui organise un festival de musique, donc je sais pas, prochainement il est dans les cartons.
Année, pas cette année.
Bon, voilà, donc on en reparlera le moment venu. Mais aujourd'hui, t'es pas là pour ça, t'es venu pour nous parler de la 125 DTMX. Alors, je crois que ça a été ta première moto.
C'est ma première moto, c'est la moto de mes 18 ans, juste après le permis.
Bon, ça nous rajeunit pas. Tu l'as gardé combien de temps?
J'ai gardé 3 ans, le temps d'emmagasiner un peu d'argent pour acheter un 500. Après.
D'accord. Alors, je rappelle que c'est une moto, donc 1977-1993, et donc elle avait quand même un côté assez innovant à l'époque. Tu l'as acheté pourquoi?
Pour le prix d'abord.
Ah. on s'en doutait un peu, tu vois.
Non, à l'époque, quand moi j'avais 18 ans, on avait beaucoup de mal à s'assurer. Donc on s'orientait en priorité vers les trails parce que ça nous permettait de nous assurer chez Moto Verte et de pouvoir s'assurer correctement. Et les modèles relativement bon marché de l'époque, c'était le DTMX. Mais d'occasion, ils étaient déjà difficiles à trouver. J'en avais trouvé un au bout de ma rue, un gros coup D'accord. de bol, qui était vraiment superbe.
Elle t'a pas permis de rencontrer ta femme?
Non,
ta
pas, non femme, c'était hein. beaucoup.
Non,
bien,
parce
bien
c'est...
après.
c'est pas une question très personnelle que je lui pose.
Ouais, c'est curieux ton question. Hein.
Surtout oui. pour l'association Rabbit.
Oui, tu voulais en venir.
Où tu vas en venir?
Non, je voulais en venir qu'à l'époque.
C'est une grosse association. Association,
c'est une moto qui était absolument propice au duo, au voyage, malgré sa puissance, 125.
Oui, c'est vrai que c'est pas...
Tout à fait. Ouais. Et donc voilà, c'est tout.
Mais pour l'époque, c'était vraiment le trail. Pour moi, c'était le trail par excellence. Et c'est toujours le trail par excellence d'ailleurs, puisque j'en ai encore une maintenant, j'en ai racheté une il n'y a pas longtemps.
Voilà.
Et alors... c'était le trail parfait, c'est-à-dire le trail léger. Facile à bricoler.
Tout à fait. Et donc, dans le numéro de Motomag, ils nous disent que c'est une bonne base de restauration dans sa version d'origine. Oui. Donc, la 125, parce qu'il faut rappeler qu'il y avait un kit 175 qui pouvait être utilisé.
En Allemagne, elle existait en 175, d'ailleurs.
Voilà. Ouais. Hein, bon, nous, on était effectivement dans la réglementation 125, permis, alors je ne sais plus à l'époque quel était encore. C'était le A1.
A1, tout à fait.
Voilà. Hein. Donc, puis les particularités techniques, donc de châssis.
Donc châssis, c'était une des premières motos avec un cantilever.
Tout à fait.
Avec le mono-amortisseur, avec l'axe de fourche déportée. C'est-à-dire que c'était une moto qui était assez proche des motos de cross de l'époque, des YZ de cross.
Oui, alors un deux temps.
Un deux temps,
et puis une innovation.
Un des premiers deux temps avec un moteur à clapet d'ailleurs.
Absolument.
Si je ne me trompe pas.
Ce moteur à clapet qui constituait une vraie nouveauté donc, pour un trail de grande série.
Un graissage séparé.
Voilà, ça permettait l'arrivée des gaz donc optimisée et surtout de diminuer la consommation de façon très substantielle. Et donc aujourd'hui, tu as fait l'acquisition de...
Oui, il n'y a pas longtemps. J'en ai retrouvé une, pareil, à côté de chez moi, une qui traînait dans un garage que j'ai récupéré. Voilà. J'ai remis en route quasiment du premier coup et que je suis en train de remettre un petit peu en état. Là.
Donc ce sont effectivement des bases de restauration tout à fait aisées.
Oui, et ça reste un prix raisonnable. On arrive à se refaire une machine pour un prix... prix raisonnable. Après, ce n'est pas non plus des motos qui ont une grosse valeur. C'est pas une moto qu'on revend 5 ou 6 000 euros une fois qu'elle est restaurée. On trouve des pièces super facilement et des pièces neuves. Bon, chez Yamaha, il y en a certaines qui n'existent plus, mais quand on fouine un petit peu sur Internet, on trouve des sites où on peut retrouver des pièces facilement, comme la XT500 d'ailleurs.
Voilà. Et donc, on peut donner d'ailleurs l'adresse du site internet FJ2T, alors 2, le chiffre 2.fr, qui rassemble justement tous les amateurs de vieilles japonaises de temps. Et donc, celle-là,
on peut trouver. Il y a quelques forums aussi où on peut trouver beaucoup d'informations qui sont pas mal également.
Dans ce cadre-là. Donc, aujourd'hui, en machine moderne, qu'est-ce qui se rapprocherait le plus
La grande sœur, j'en ai une actuellement, c'est une 125 TDR qui est la cousine de la 125 DTR qui est plus le modèle trail. C'est plus elle qui se rapproche du modèle DTMX. C'est la déclinaison, ça a été DTMX, DTLC, DTR, c'est qui existe toujours actuellement.
Dans l'article là, ils font référence à la 125 WR. Donc Yamaha, bien sûr,
oui.
Et moins propice à la convivialité en duo. Hein,
mais donc. Qui est plus enduro, oui, c'est plus en WR, c'est plus enduro, oui. Je pense.
Alors, sachant que ces châssis ont été ensuite déclinés avec des puissances de 50 jusqu'à 400 cm3.
Oui, de 50 et 400 cm3. DTMX 400 cm3, l'idéal, mais à retrouver... Ça, à restaurer, c'est beaucoup plus difficile parce que les pièces sont beaucoup, beaucoup plus rares.
Voilà. Et puis alors, je montre effectivement la pub de l'époque de la 125 DTMX.
Attends, jouir l'association Rabbit. Moi, je trouve que c'est...
Bon, donc,
tendancieux.
Avec mes questions, j'étais un peu dans le ton, finalement. Bien. Merci, Pascal, pour ta participation.
De rien, c'est un plaisir.
Et nous avoir aidé à mieux connaître ce modèle.
Tu sais qu'il a eu peur. Hein. Il s'est dit, vous me posez des questions, mais pas trop techniques quand même. Hein, parce que...
C'est vrai que hors antenne, il avait déjà demandé, qu'est-ce que vous allez me poser comme question.
Mais je vous connais, les gars, je suis un peu méfiant.
Et donc, puisqu'on parle d'ancienne, on va rester là sur la rubrique... alors, c'est pas vraiment une ancienne, on va parler de la rubrique néo-rétro. Et donc, dans Moto Magazine de novembre, il y a justement une présentation de la CB1100 Honda qui reprend vraiment l'inspiration des modèles des années 80. Et donc, j'ai trouvé un propriétaire qui nous en parle. Je vous propose d'écouter l'interview que j'ai réalisée cette semaine.
Moto Magazine donc présente ce mois-ci l'occasion du mois, la Honda CB1100. Et ça tombe bien, on a parmi nos membres Luc qui a fait une acquisition en début d'année de la CB1100. Alors Luc, tu as choisi cette moto, tu peux nous dire pourquoi ?
Alors justement, c'est parce que je cherchais une moto un peu néo-rétro, tu sais, tu me connais, j'aime bien le côté moto ancienne, mais j'aime pas non plus la bricoler, les emmerdes, etc. En fait, j'ai besoin d'une moto polyvalente qui puisse rouler tous les jours, mais qui soit en même temps jolie. Et pour moi, joli, ça veut dire qu'il y a un look rétro, quoi, si tu veux. Donc la CB1100, je trouve que parmi les néo-rétro, c'est la moto qui avait, en termes de cahier des charges, les caractéristiques qui me correspondaient le plus, quoi. Donc non seulement elle est belle, mais en plus elle est polyvalente. Polyvalente, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une position de conduite normale, donc tu peux rouler, tu peux traverser la France avec si tu veux, comme tu peux aller au boulot. Tu as une selle biplace, tu peux monter à deux dessus. Tu mets un porte-bagage, tu peux mettre un peu de bagage, et puis tu peux y aller, tu peux rouler, quoi. Et en plus, comme c'est un 4 cylindres qui fait 90 chevaux à 8000 tours maxi, donc tu as du couple, tu as de la puissance, c'est hyper polyvalent et tu peux faire tout ce que tu veux avec, quoi.
Alors, tu l'as acheté en début d'année, là, t'as combien de kilomètres dans les roues? Et puis, elle a quand même quelques petits défauts, tu lui as trouvé beaucoup de qualités, là. Dis-nous un petit peu sur quoi elle pêche et comment t'as résolu le problème.
Alors, c'est vrai que la machine, je l'ai achetée au mois de fin mars, début avril. Donc, elle avait 3000 km. C'était une moto d'occasion. J'ai aussi choisi cette moto-là. C'est vrai, non seulement elle a des qualités, mais c'est parce qu'en plus, je sais pas pourquoi, les concessionnaires ont un peu de mal à la vendre. Et donc, normalement, c'est une moto qui vaut, à sa sortie, elle valait plus de 10 500 €, et je l'ai acheté 7 000 € alors qu'elle avait 3 000 km, tu vois. Donc effectivement, c'était un truc intéressant. Donc depuis, j'ai fait 15 000 bornes avec en quelques mois. Donc elle est vraiment polyvalente, ça correspond vraiment à ce que je cherchais. Alors si effectivement on cherche la petite bête, c'est normal, quoi. Au niveau des suspensions, c'est des combinés, hein, c'est deux combinés à ressort, hein, traditionnels. Donc quand tu montes à deux dessus, que tu charges un peu et que tu fais des bornes, sur mauvais revêtement, forcément, tu vas atteindre les limites. Mais c'est un peu comme si tu voulais prendre une Royal Enfield, tu vois, et que tu disais après, bah ouais, c'est une moto qui tient pas forcément très bien le parquet, qui freine pas bien, etc. Mais c'est normal, quoi. Il faut aussi la remettre dans le contexte de la machine par rapport à ce qu'elle te propose. Donc c'est évident que ces deux suspensions pouvaient pas non plus faire des miracles particulier, quoi. Alors bon, c'est vrai qu'aussi la selle, elle est réputée d'origine pour les modèles 2013. À partir de 2014, d'ailleurs, ils ont changé le tir, mais sur les modèles 2013 comme la mienne, la selle était un peu dure. Au bout de 50 bandes, t'as un peu mal au cul. Donc ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai rajouté de la mousse, et en plus un matelassage au-dessus, à la fois pour le confort et aussi pour lui donner un look un peu plus rétro, un peu plus années 70. Et pour aller encore plus loin, voilà, notamment parce que quand tu roules souvent longtemps, j'ai mis un tête de fourche type 90S de chez BMW, tu vois, qui va très bien avec le look de la machine et qui rappelle les années 70, et qui permet donc d'avoir un certain confort par rapport au vent, notamment par rapport à la position de conduite, qui m'a aussi séduit, parce que moi j'aime bien cette position droite qui te permet d'avoir donc à la fois un bras de levier important quand tu fais de la ville pour remonter les fils de bagnole, etc., mais aussi quand tu roules longtemps, c'est important d'avoir une bonne position de conduite.
Et alors, pour reprendre les termes de Moto Magazine, accro ou dégoûté? Et puis par rapport aux motos que tu as déjà eues, comment tu la situes par rapport à toutes celles que tu as déjà possédées?
Alors moi je suis accro, j'aime beaucoup cette machine, t'as vu comment j'en parle, mais je le verrais très bien comme une deuxième machine. C'est-à-dire que mon passé en Ducati me manque un petit peu. Le 4 cylindres, il est intéressant, notamment sur le mouillé, tu vois. Sur le mouillé, ou quand il fait froid, quand il y a du verglas, quand ça glisse, quand tu roules sur des feuilles, etc. Un 4 cylindres comme ça, que tu peux maîtriser, c'est vachement bien. C'est hyper plaisant, je te promets. Alors que le Ducati que j'ai pu avoir, sur le sec, c'est jouissif. Mais sur le mouillé, franchement, à chaque fois, tu fais attention, quoi. Donc j'avérais bien en machine complémentaire pour avoir vraiment le plaisir total avec un Ducati à côté, genre un 1000 GT par exemple.
Ok, bah Luc, merci. En tout cas, vous retrouverez dans la rubrique occasion toutes les caractéristiques de la moto, des modèles qui ont été déclinés donc en 2014, et puis aussi tous les tarifs concernant l'entretien de cette moto.
Mais en même temps, J'ai vu que Triumph sortait bientôt des nouveaux modèles Bonneville. C'est comme ça qu'ils vont l'appeler, la Bonneville 2016. Et il y aura notamment des 1200. Un 1200 Bonneville à refroidissement liquide. Donc il y aura la Bonneville et il y aura la Truxton aussi. Avec notamment une Truxton R avec fourche au inversé et tout le bordel. Et aussi avec un kit café rasseur. Alors du plus bel effet. Et franchement, si je peux négocier un truc, je vous en reparle au mois de mars. Ok?
Ouais, je connais tes aspirations pour la Triumph, et là je te reconnais. Merci, Luc.
64 Stratocaster. Said it wouldn't last me my whole life. I ripped and tore and banged that thing till it couldn't take one more night. I'm gonna wear you out. Yes, I'm gonna wear you out. I ain't slowing down till I wear you out. Yeah, the 70s something Eldorado. They said it ain't never gonna stop. 100,000 miles in 69 days. I felt the engine drop. I'm gonna wear you out. I'm gonna wear you out. Oh, I ain't slowing down till I wear you out. Before I even hit my stride.
Très vite, on termine avec cet édito, hein, le programme du Motomag du mois de novembre avec Christophe Tillemont.
Oui, donc pour terminer sur le sujet, là, sur les occasions et les arbres de nostalgie, je voudrais remercier à l'antenne Bertrand qui avait répondu à mon appel. Donc il a tenu Motochange à Béthune de 1979 à 2008. Et donc c'était un spécialiste de la moto d'occasion. Et il m'a proposé de commenter éventuellement tous les modèles qui pourraient être présentés des années 70-90. Donc Bertrand, si t'écoutes, pas de problème, je garde ton contact et on aura l'occasion d'approfondir les sujets qui sont développés dans le journal avec ta grande connaissance des machines. Alors pour continuer sur la rubrique consommotard, ce mois-ci, donc présentation comparative donc des vestes urbaines. On en discutait hors antenne. Bon, effectivement, c'est pas le look.
Le vice-président de l'ABF y adhère pas. Hein,
ouais.
C'est pas le look des bikers.
Effectivement. Veste urbaine, comme son nom l'indique. Alors, quoique, on voit des costumes sur les grandes avenues, hein, de la capitale.
Il y a eu le Gentleman Rider récemment. Hein,
Donc voilà, si vous voulez soigner un certain look et pratiquer la moto en sécurité, alors je ne sais pas si elle sauve des vies celle-là, hein, c'est pas sûr.
Non, c'est les gants qui sauvent des vies, voilà, c'est pas les vestes. Hein.
Donc vous découvrirez ça. Alors j'ai relevé également dans la rubrique consommotard un accessoire, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait évoqué la sécurité à moto sur la signalétique. On avait parlé des gilets, à l'époque on parlait beaucoup des gilets jaunes, mais surtout de la signature visuelle, avec les phares, enfin plutôt les les rappels.
Qui préconisait de mettre un gyrophare sur le casque, au sommet.
Oui. Non, ça se situait plus bas sur les tubes de fourche. Et donc là, justement, on nous présente un système de phare directionnel. Et j'ai trouvé quand même l'idée très séduisante. Alors, c'est Alarmex Swing Light. Ce sont en fait des petits projecteurs LED qui sont montés sur les côtés de la moto, mais qui ont la particularité de pouvoir suivre, en fait, avec l'inclinaison de la moto, la sinuosité du tracé. Et donc, bien sûr, dans les ronds-points, dans les virages, alors assez prononcés, parce qu'il est quand même évoqué qu'il faut bien marquer l'angle de la moto pour que les feux de... Alors, ça, c'est assez curieux, d'ailleurs, c'est classé feu de position. Mais ça ne peut être utilisé et recommandé d'ailleurs en accompagnement et en complément des feux de route. Parce qu'ils offrent quand même, comme ce sont des feux LED qui envoient 900 lumens, alors 2 × 10 watts, c'est pas énorme, mais suffisant visiblement. Et donc, alors, ça vaut quand même un bras, hein, 400 euros.
Parce que ça réclame une centrale d'inertie pour mesurer constamment l'inclinaison de la moto.
Voilà, mais j'ai trouvé quand même le développement de ce produit et sa présentation tout à fait pertinente. Une rubrique également sur les achats à distance. Donc, tout à fait des conseils qui vous sont donnés sur les achats que vous pouvez entreprendre par Internet. Et puis, dans la rubrique agenda, je vous rappelle le salon Motolégende, ici à la fin du mois de novembre, le 22 novembre, avec les 30 ans de la GX-XR.
C'est impeccable, ça, Motolégende. Donc, samedi matin, tu vas à Motolégende, tu reviens vers 18-19 heures, et tu vas au couscous de qui tient un coup, t'es tout pâle, avec un programme fantastique cette année. Ouais. Tout ça, c'est terminé, Christophe, pour le MAC de novembre. Mais bon, il y a à lire. Voilà, on va enchaîner avec Daniel Torel, vice-président de la FBF. FBF, rappel.
Fédération des bikers de France.
Voilà. Il y a une grosse manif il y a 2 mois là. Donc vous étiez combien 6 000 à Paris.
Pas du tout. On était 800, mais par un prompt renfort avec nos collègues de la FFMC, on était beaucoup plus nombreux. Mais enfin, c'était la première fois qu'une manifestation de cet ordre-là se produit en France. Il faut quand même le savoir. Donc la FBF effectivement a un fort pouvoir de mobilisateur vis-à-vis de ses membres.
Très bien, tu vas nous parler donc du 12e anniversaire de la FBF, mais tu vas aussi nous parler d'une réalisation d'une moto adaptée pour un membre qui a été gravement accidenté.
Oui, tout à fait. Comme tout motard, encore une fois, qu'il soit custom ou sportif, etc., on est soumis à souvent l'inattention des véhicules 4 roues, donc des voitures. Et on a un de nos membres qui s'est fait faucher par une voiture qui sortait d'un stationnement, donc il a eu la jambe sectionnée. Et nous avons bien sûr une obligation et un devoir de solidarité vis-à-vis de nos membres. Donc ce garçon qui s'appelle Olivier part la semaine prochaine à Garches en rééducation, bien sûr. Donc on va prendre en charge une partie des revenus qu'il n'a plus. Et surtout, il a manifesté son désir de continuer à faire de la moto. Donc on va prendre à nos charges, bien entendu, une adaptation, enfin réadapter son véhicule à son handicap pour qu'il puisse continuer avec nous à sortir et à vivre de sa passion. Donc ça, c'était aussi une des particularités de la FBF, et c'est pas que des termes, c'est vraiment du vécu, hélas.
Je me permets de faire d'ouvrir un peu les guillemets, parce qu'on a notre ami Guy Pilarzic au téléphone, en direct de la bourse de Rollers, la 32e bourse de Rollers.
Roselard.
C'est Roselard, Rollers, on ne sait plus. Alors, moi, je dis Rollers ou Roselard. Hein. D'habitude, je dis Roselard ou après Roselard. Après, à chaque fois, on me reprend. Alors, voilà. Guy, tu nous entends ?
Oui.
Bonjour, Guy. Alors, tu es à Roselard ou à Rollers ?
Aux deux.
Très bien. Voilà. Alors,
avec certaines lettres en moi ou en plus.
Oui, voilà. Alors, tu nous rappelles un petit peu le thème aussi de cette année, de cette fameuse bourse là-bas, qui est organisée par le motoclub Outland.
Oui, donc cette année, comme thème, c'est la Saroléa, c'est-à-dire une marque emblématique belge, Saroléa.
Flamande donc, ou wallonne ?
J'ai pas compris.
Flamande ou wallonne ?
Ah, elle est wallonne, hein.
Ah, belle précision, ça. Ah oui.
Elle est fabriquée dans la région de Liège.
D'accord, oui.
Donc une bonne trentaine de machines sont visibles au centre du salon, dont aussi une moto assez particulière, c'est la moto électrique Saroléa, qui a disputé le dernier...
Tourist Trophy.
Tourist Trophy. Donc elle est sur un piédestal, cette moto, parce que c'est l'avenir. C'est l'avenir.
Alors ça, c'est toi qui le dis, là, Guy.
Je t'ai pas payé, Guy.
Méfie-toi.
Ça. Alors, justement, il y a notre ami Nicolas qui est...
Aïe, aïe, aïe.
Il est à genoux devant
Ça m'étonnerait.
Ça m'étonnerait.
Elle est belle, bon. Il la photographie. Il a demandé de même de faire un essai, mais c'est pas possible.
Il va donner une un chèque de caution. D'accord, voilà. D'accord, très bien. Bon, il y a du monde.
Alors oui, beaucoup de monde, bon, parce que en plus il y a une brocante hein, de pièces, de livres, etc. Enfin, comme chaque année, c'est la 32e édition, hein, ce salon. Donc beaucoup de monde et beaucoup de Français. Ben, c'est peut-être grâce à certaines radios.
Peut-être, Guy, on ne sait pas.
Que le public vient.
Oui, voilà.
Donc on peut choisir. Et puis. Sans oublier le fameux Outland Picon.
Ah oui, le Picon Outland. Alors là, attention, c'est un spécialiste du club, ça. Oh là là.
Parce que cette année, souvent, le samedi, les cuves sont vides. Mais
déjà
là, pleines,
hein. Bon, très bien, c'est ouvert jusqu'à 18-19h. Je ne sais plus trop l'horaire de fermeture.
Oui, jusqu'à 18h.
18h, ouais. Très bien.
Ouais.
Bon, et le lieu, c'est la fabrique. Alors là, je ne sais plus, la fabrique, alors, c'est... Ouais,
C'est fléché, hein, c'est fléché avec des flèches, des grandes flèches jaunes.
Oh, bah ça va alors. C'est fléché, avec des grandes flèches. Voilà, très bien. Merci Guy d'avoir appelé.
Voilà.
Et puis à bientôt.
Allez, bye, bye.
Merci.
Ok, salut.
Voilà, retour avec Daniel Torel, vice-président de l'AFBF. Daniel, il faut que tu nous parles un petit peu de cette nuit de la custom culture qui a eu lieu le 17 octobre.
Oui, tout à fait. Donc tous les ans, la FBF organise la nuit de la custom culture. Alors qu'est-ce que c'est que cette nuit? D'abord, il fait noir. Donc ça s'est passé à Montreuil, et sous la direction et la houlette de Nicolas Chauvin, un grand constructeur de custom reconnu. Il désigne les 10 meilleurs préparateurs, fabricants de motos, peintres, selliers, qui concourent à la réalisation d'œuvres d'art, parce qu'à ce niveau-là, ce sont des œuvres d'art. Et à telle enseigne que la qualité des réalisations françaises sont telles que certains de nos primés, nos chevaliers maintenant, sont reconnus comme étant des références au niveau international, et entre autres aux États-Unis, un grand creuset de la création de la moto sur mesure. Alors, la volonté de l'AFBF, c'est de mettre en valeur des artistes, des artisans, qui sont capables de faire des produits d'exception, mais qui, hélas, sont aussi quelque part un peu schizophrènes, puisque si on s'en tient à la législation, ils peuvent fabriquer des produits, mais ne peuvent pas les vendre. C'est assez étonnant. Néanmoins, ce sont l'excellence du custom. C'est vraiment ce qu'on peut voir dans tous les grands magazines. Et c'est vraiment des gens assez remarquables. Donc c'était cette nuit-là qui a honoré, je dirais, ces nouveaux membres, avec un souvenir quand même assez ému pour Coyote, qui nous a quittés, qui était aussi un dessinateur connu. Et puis Jordan, qui était aussi un jeune préparateur du Nord. Dans le Nord aussi, on a beaucoup de gens de talent. Entre autres, on a François Luc, qui est à Landa, qui fabrique aussi des customs plutôt orientés bobber, avec une très très belle qualité, qui était reconnu par ses pairs comme faisant partie du cénacle maintenant des nouveaux constructeurs.
Très bien, on va parler aussi de l'anniversaire de l'AFBF, c'est le 12 décembre.
12 décembre, oui, cinquième année.
Avec une soirée bras de fer. Non, c'est à part.
Non, ça passe pas. Bon, ceci étant, on peut organiser aussi un bras de fer. Non, il n'y a pas de problème. Donc, cinquième année donc de la première organisation française biker et première plus grosse organisation européenne quand même. Donc, on peut être fier. Or, support entre guillemets de marque. Donc, nous sommes indépendants de toute marque, etc. Et on veut le garder. On ne demande rien à personne. Donc effectivement, cinquième anniversaire, une croissance exponentielle.
On fait des courbes à la FBF.
Il y a des magazines ou des journaux qui font des sondages bidons, sans éléments de comparaison ou de contrôle, tandis que nous, bon, c'est du factuel, c'est transparent, c'est clair, c'est net. Et on défend donc le custom, bien sûr, et aussi le droit de vivre de sa différence et non pas de son indifférence.
Très bien. Alors aussi, on revient sur cette soirée bras de fer, ce sera à Wormhout.
Tout à fait, chez donc nos amis les Docs à Wormhout, qui organisent le 14 novembre. Une soirée donc bras de fer. Donc très sympathique, attention, c'est un truc fait bon enfant, bonne ambiance, belle musique, et puis voilà. Donc les costauds, les gros bras, les petits bras.
Avant j'étais bon, mais non, je suis plus bon.
Y a-t-il une catégorie féminine?
Une catégorie féminine aussi.
Bien sûr, ça va attirer les gens.
Oh là là.
On a lancé.
Alors, et puis on termine avec vous respectez la tradition aussi, la FBF, forcément. Vous respectez la tradition, vous respectez le Beaujolais, le jour du Beaujolais.
Ben oui, tout à fait. N'oubliez pas qu'à la FBF, c'est aussi la fête, c'est la convivialité. Effectivement, soirée Beaujolais ouvert à toutes et à tous, surtout toutes. Le Beaujolais, dans le Beaujolais, il y a aussi nouveau, mais il y a aussi du Morgon.
Voilà, il y a le Morgon à bas.
Et le Morgon est un nouveau Bourgogne.
Je ne mourrai pas idiot.
On vous invitera à
déguster. Je sais où est le Morgon.
On termine une petite annonce. Il y a un petit couscous en préparation, là, et puis je vous dis pas, ça va chauffer quand même.
Donc, le couscous,
le 21 novembre,
voilà,
à Gondecourt.
Voilà, le 21 novembre à Gondecourt, le couscous, vous pouvez vous inscrire. C'est par invitation, donc n'hésitez pas.
06 11 25 02 57. Voilà.
Et aussi, je voulais juste préciser que le calendrier 2016 des motoclubs est en pleine fabrication, donc inscrivez gratuitement vos manifestations dans le calendrier sur k1c@orange.fr ou k1c.free.fr.
Ça, c'est le site de k1c. Voilà, très bien. Merci Christophe pour l'édito du MAC de novembre. Ça va aller?
On se retrouve.
On se dépêche. Voilà, Jean-Yves, le mois prochain. Pascal, nous on va pas se retrouver le mois prochain, mais c'était bien, c'est sympa d'être passé aujourd'hui pour parler des TMX.
Oui.
Voilà, très bien. Daniel, alors toujours bien impeccable, bien brossé, tout génial.
Il y aura les 1000 vaches.
Ah, il y a les 1000 vaches. On en parlera, on en parlera. Il fait signe, Laurent. Christine, super, hein, aujourd'hui.
Merci,
super.
Hein.
Comme toujours.
Et notre. et on donne le dernier mot à notre ami technicien.
Au revoir.
C'est le
Il a goûté au morgon.